beaucoup ce jeune homme au déhanché incertain et à l'allure éternellement juvénile. Eh bien, il y a de cela aussi, mais Étienne Dao a 61 ans aujourd'hui, mais on le surnomme le Dorian Gray de la chanson française. Un artiste simple avec lequel il est facile d'échanger, de ce genre de chanteur qui donne et se dévoile avec beaucoup de générosité. On l'a rencontré à l'hôtel Kempinski à Genève le 31 octobre dernier. Une élégance et un charme tout naturel. Alors vous sortez un nouvel album, Étienne Dao Blitz. Le premier extrait, Les Flocons de l'été, ne prépare pas forcément au son psychédélique de tout l'album. C'est un titre très très doux comme ça.
C'est vrai. Mais voilà, le titre est arrivé. J'avais envie qu'il soit dans cet album, tout en sachant que c'était un ovni. Mais c'est souvent arrivé. Hein. J'ai une chanson qui s'appelle Des heures hindoues aussi, qui était comme ça posée dans un album. Qui s'appelle Pour nos vies martiennes et ça n'avait rien à voir.
Oui, d'ailleurs, on fait souvent le parallèle entre cette chanson et Les heures hindoues.
Elles ont un côté flottant comme ça. Il y a un côté inquiétant et confortable.
Vous l'avez...
Elle prend son temps avant de s'insinuer en soi. Ouais.
Ouais. C'est comme si on devait l'avaler et ensuite la digérer et puis après la savourer.
Mais le temps, c'est toujours très important. On va trop vite. Il faut avoir le temps d'apprécier les choses. Les choses trouvent leur chemin comme ça vers vous, parfois avec du temps. Et ce temps, il est toujours très précieux. On se lasse moins vite des choses qui s'insinuent avec le temps qu'il faut. Non.
Vous n'avez pas peur du temps qui passe ?
Non, pourquoi ? Je devrais ?
Non, parce qu'il y a des personnes, quelque chose d'anxieux par rapport au temps.
Ah non. Non, ce n'est pas mon cas. Ça le sera peut-être un jour, mais pour l'instant, non, pas du tout.
La peur de vieillir, par exemple, non ?
Bah non. De toute façon, c'est inexorable.
Ouais. On vous appelle quand même le Dorian Gray de la chanson francophone. Donc...
Gris. La nuit blanche.
chanson, on va revenir sur les flocons de l'été. Vous l'avez écrite à la suite d'un épisode très douloureux qui aurait même pu être fatal. Hein, c'est une appendicite qui part en péritonite, septicémie. Votre pronostic vital était engagé. Mmh. Comment on ressort d'un épisode comme ça, quand on côtoie quand même la mort de très près?
En faisant une chanson qui s'appelle « Les flocons de l'été ». Et puis, j'avais un disque en fait qui sortait à ce moment-là et qu'on a dû retarder forcément parce que j'étais pas en état vraiment de faire quoi que ce soit. Et le fait d'avoir ce disque, le précédent qui s'appelle « Les chansons, l'innocence retrouvée », ça a été un tel aiguillon que je me disais « Mourir n'est pas une option ». Et que vraiment, ça m'a vraiment aidé. Hein. J'ai vraiment bossé de l'hôpital. Je travaillais sur la pochette, je faisais des interviews au téléphone et tout ça. J'ai pas lâché, quoi, vraiment.
Donc c'est peut-être ce disque qui vous a, d'une certaine manière, sauvé.
La perspective d'avoir cette chose que je ne pouvais pas laisser tomber, enfin, je pouvais pas laisser tomber mon disque, je pouvais pas laisser tomber les gens qui avaient travaillé sur ce disque. Je sais pas, ça m'a sauvé la vie, je pense. Ouais. C'est mon corps et ma tête sont fabriqués pour faire de la musique. C'est une vraie vocation. C'est pas un truc que j'ai choisi comme ça entre 25 métiers. C'est vraiment, et je l'ai pas fait non plus pour pas envie de me montrer, loin de là. Mais parce que vraiment, c'est ça ou le caniveau, quoi.
Quand on vit vit tous un peu comme si on était immortel, quelquefois, et on a bien dans l'idée qu'un jour, évidemment, on ne sera plus de ce monde. Mais quand on côtoie la mort comme ça, d'aussi près, ça nous donne quoi comme goût par rapport à la vie ?
Je ne sais pas. J'ai beaucoup vu Jeanne Moreau, qui est partie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de départs, là. J'ai eu quelqu'un qui est parti cette semaine, la semaine dernière. Il y a ces choses à répétition. Et Jeanne me disait « Je ne crois pas à la mort ». J'adorais cette phrase parce que elle avait une espèce d'assertion comme ça, définitive sur une réalité. On va tous mourir, c'est une chose qu'il faut intégrer parce que c'est le corps qui s'arrête de fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit s'arrête. Et donc elle me disait qu'elle était immortelle et qu'elle ne croyait pas à la mort. Et je comprends ce qu'elle veut me dire maintenant. Je crois qu'on a véritablement un rapport avec les gens qui sont plus là. Ça se prolonge, vraiment. C'est à la fois rassurant. Alors, est-ce que c'est une manière de se rassurer ? Peut-être. Peut-être que ça non, planque une peur affreuse de la mort, mais je ne le ressens pas comme une espèce de menace. Je pense que si... j'ai beaucoup plus peur de me faire chier que de mourir, par exemple.
L'ennui.
Ah ouais, ouais, vraiment. Je crois que tant qu'on essaie de faire de son mieux pour faire des belles choses dans sa vie, pour apporter de l'amour aux autres, et aussi de voir les belles choses qu'on vous envoie, voilà.
Je ne sais plus qui disait « Si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle.
» Qui a dit ça ?
Je ne me souviens plus.
Mais j'aime beaucoup ça.
Voilà. M'avez-vous déjà vu quelque part ? Rafraîchissez-moi donc la mémoire. Extasié devant une toile de Vixen à Rome, Andrew-Rennes. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, Café Reggio, je suppose. En plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos. Accoudé à un bar, vous m'appeliez. Vous en avez de bonnes à Lisbonne. De Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon. Pourvu qu'il soit le bon. Sur d'experts toboggans, vous m'avez vu glisser, vous y glisser avec délice. Certes. Oh, j'aime tout. Je veux goûter à vous. Oh, j'aime tout. Je veux me donner à vous. Avant que je m'en aille, avant mes funérailles, de la vie faire ripaille. Avant que je m'en aille, les flèches que Cupid ont décroché, les têtes que des haches dans le dos. Et si j'ai rampé tout en bas, j'ai surfé aussi tout là-haut sur des cimes ondulantes. Hop, j'enchaîne. Du lever du soleil brûlé jusqu'au matin crème. Se frotter à tout ce qui bouge, de balanceuse en bouge. Non, je n'épargnerai ni moi ni personne. La fièvre n'est pas un nom mais un dû. Les provoques de cette foutue ville rendent certains hyper hostiles. Mais moi j'avoue que ça me tente. Mais je n'ai pas le rouge au front. Et je ne suis pas sur le flanc. Et je ne suis pas si mauvais. Non, je ne suis pas si maudit.
Les 20 ans sans te voir, je m'en mange à brèche.
Du lever du soleil briller jusqu'au matin grège. Avant que je m'en aille, jouer à qui perd gagne, et de la vie faire ripaille. Avant que je m'en aille,
et ma ligne de fuite s'est brisée pour me mettre à la colle tes 22 étés. J'abandonne aujourd'hui mes attractions des astres, et tu viens avec moi faire la vie.
Et puis, c'est aussi Cocteau qui disait, alors là, vous parliez de la mort et puis de notre rapport des fois à ça. Il disait, le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants.
Ah mais oui, mais moi j'en suis convaincu.
Ils sont là.
Ouais, je ressens la présence de gens qui sont plus là.
Et puis la mort, vous l'avez, vous y avez été confronté très très jeune, hein, puisque vous êtes né en Algérie, à Oran, et enfant, c'était la guerre d'Algérie. Donc vous avez vu très vite du sang, des cadavres.
Oui. Enfin, quand on est en pleine guerre, c'est l'environnement. C'est j'ai grandi là-dessus. C'est comme ça. Ça fait partie de mon histoire. Après, tout dépend ce qu'on en fait après. Hein. Tout le monde a des traumas. Il y a des gens qui sont traumatisés parce que leur chien est mort et d'autres parce que tout d'un coup ils ont vécu un cataclysme. On est tous très différents par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette petite chose qui m'a été donnée, de pouvoir transformer la réalité, copier le réel et faire des chansons. Essayer de faire des belles choses avec des choses parfois douloureuses, souvent assez graves. Comment est-ce qu'on fait un lien avec les autres avec ça? Comment est-ce qu'on tisse une histoire qui dure depuis 35 ans, c'est un drôle de truc, vraiment.
Il n'y a pas d'explication.
Il doit y en avoir une, mais bon, j'ai pas très envie de le savoir. Non, il faut laisser le mystère aux choses, pas tout expliquer. Je pense qu'il faut pas tout expliquer. Il y a des mystères comme le mystère de l'écriture, de l'inspiration, de comment tout ça se transforme en musique, que je ne comprends pas encore aujourd'hui. Je n'ai pas une technique, je n'ai pas un procédé. Le jour où j'aurai un procédé, je pense qu'il sera temps d'arrêter.
Un album, évidemment, on imagine que ça révèle ce que vous vivez sur le moment, c'est-à-dire votre état d'esprit.
C'est un condensé de, en général, c'est deux ans Chaque album, c'est un chapitre de 2 ans, 3 ans. Je mets tout dedans. Après, j'ai pas d'imagination. Je suis obligé de, d'absorber et puis après, de, quelque chose se fait par rapport à ça.
Moi, je pense au jardin, la chanson aussi, notamment, qui a une véritable ambiance comme ça et qui parle aussi de la mort. Et au milieu du jardin, mais très doux en même temps.
C'est, j'ai eu un gros chagrin. J'ai perdu ma sœur, à laquelle j'étais très attaché. Out of the blue, comme ça, sans prévenir en plus. Et j'avais envie de lui rendre hommage, de rendre hommage à la belle personne qu'elle est toujours. Et qu'elle existe à travers cette chanson aussi, que ça se prolonge. Et j'adorais l'idée, comme ça, l'image qu'elle était dans un, au jardin d'Éden, avec des fruits, des senteurs, des fleurs. Et qu'elle était bien, surtout. Je peux pas faire un truc à la con qui fait peur à tout le monde et qui est hyper cafardeux. C'est pas ça. Un hommage, c'est aller vers le haut quand même.
Vous parlez tout à l'heure de l'Algérie, qu'est-ce que vous en gardez de l'Algérie ? Vous n'êtes jamais retourné.
C'est une fondation, jamais. C'est une fondation, c'est une partie de ma vie en fait. J'ai vécu beaucoup plus en Angleterre qu'en Algérie par exemple. Donc chaque partie est importante.
Parce que vous êtes parti à l'âge de 7 ans.
Je suis parti à l'âge de 7 ans, donc 2 ans après l'indépendance, donc c'était très dangereux. Mais j'en garde comme ça m'a donné des notions et un instinct de vie très très puissant.
Il y a un épisode un tout petit peu douloureux, c'est l'abandon de votre papa. Et puis ça, on peut dire que des fois dans la vie, c'est des mythes fondateurs, mais qui peuvent nous fragiliser et en même temps nous rendre très très forts par rapport à des choses.
Ouais, moi je trouve qu'il a bien fait.
Oui,
parce que j'aurais jamais eu la vie que j'ai aujourd'hui sans ça. On devient, moi j'ai une très belle vie, très heureuse. Je suis juste dans la vie que j'avais rêvé d'avoir. Et donc, je n'ai rien à regretter. Chaque épisode qui pourrait être considéré comme triste dans ma bio, je ne le vis pas comme quelque chose de triste du tout. Donc, ce n'est pas un truc larmoyant pour moi. C'est quelque chose qui m'a construit. Hein, votre père n'est pas là, votre mère n'est pas là, bah vous construisez sans. Voilà. On trouve l'énergie et la force en soi de devenir soi sans ce qui paraît indispensable. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir un rêve et d'être fort. Enfin, quand je dis être fort, c'est savoir se défendre soi-même. Être celui qui vous protège le mieux.
Ouais, d'être son propre ami.
Oui.
C'est pas toujours simple, d'ailleurs.
Pas d'autres amis, pas d'amour, pas de tout ça. Parce qu'on est trop dans la demande. Et une demande, c'est déséquilibré. Ça fait fuir les autres. Enfin, je veux dire, ça fait peur.
En fait, c'est dans d'autres pays, les gens sortent. C'est pour échanger, c'est pour discuter. En Espagne, ils sortent boire le petit verre et puis, bah voilà, ils échangent avec les amis. On n'a peut-être pas totalement cette tradition-là en France. C'est en fait le moment où on côtoie les autres, on est curieux des autres, on échange, on partage.
Ouais, c'est un truc d'ouverture, mais peut-être que moi aussi, pour la France, c'est un peu plus compliqué pour moi. parce que j'arrive avec ma pochette de disques sur la tête. Ouais. Donc forcément, ça modifie les rapports avec les gens qui m'aiment bien, ceux qui m'aiment pas, ceux pour qui c'est une expérience de parler avec quelqu'un de connu, parce que à partir du moment où vous passez à la télé, vous devenez intéressant, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est vrai que ça rend les choses complexes, même si moi j'essaie de les normaliser. Mais je suis dans une situation particulière. Donc malgré mes efforts, ça marche parfois, mais ça reste quand même... Ça fait qu'à l'étranger, forcément, c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est certainement la raison pour laquelle je dis des choses comme ça. Il y a bien sûr en France des endroits où on échange, heureusement.
Vous parliez de l'ego souvent dans votre métier. Il en faut hein, quand même pour faire ce genre de métier. Vous dites c'est bizarre parce que moi je suis un tout petit peu atypique.
J'ai l'impression que je suis une petite chose fragile, mais c'est pas trop le cas.
Mais la représentation, par exemple, c'est pas quelque chose que vous aimez ça, particulièrement.
Ça c'est autre chose. Je suis très pudique et donc j'aime pas beaucoup me montrer, sauf quand je vais faire des concerts. Ouais. Mais ça c'est autre chose. C'est pas se montrer, c'est partager des choses avec les autres, c'est préparer quelque chose pour faire un lien avec les autres. Donc je choisis les musiciens, les chansons, les arrangements, la scénographie, les lumières, l'affiche. Je prépare tout ça pour partager avec les autres. Donc c'est pas cette exhibition-là. C'est la télé, c'est les endroits où il y a des photographes. Ça me met mal à l'aise. Je n'aime pas ça parce que je ne sais pas simuler. Et comme je ne sais pas simuler, je me vois dans l'obligation de simuler, ça empire. Le mal-être, le malaise.
Ouais. C'est dans ce sens-là que je veux dire l'ego. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui adorent briller, se montrer, être...
Forcément, j'ai dit oui, ça, oui. Mais quand on fait un métier comme le mien et qu'on dure plus de 35 ans, c'est que forcément, il y a cet égocentrisme de base. Hein. C'est forcé. J'essaie juste de ne pas me laisser bouffer la tête par ça, parce que là, par exemple, depuis... quelques mois, je suis en promo, donc je parle de moi en permanence. Donc je serais tenté de penser que je suis le centre d'un monde et que tout à coup, je suis vraiment passionnant. J'ai quand même la lucidité de ne pas le penser. Voilà.
I'm
soi. Tout part de soi. Enfin, il y a bien sûr des catastrophes inattendues dans l'existence de chacun, mais globalement, on est le maître d'œuvre de son existence, on est le scénariste, on écrit tout ça, on se construit.
Vous avez eu aussi de la chance, parce qu'il y a une période où vous étiez dans une période un peu plus délurée, hein, les années 80, on sort, on fait la fête, etc. Il y en a beaucoup qui n'en sont pas revenus. Mm-hmm. Vous dites toujours que vous avez un instinct de survie aussi.
L'instinct de survie, une excellente vitalité, c'est important, sauf aujourd'hui ouais. Je suis malade, mais bon, d'habitude, je fais quand même toutes les interviews, j'essaie de ne pas trop le montrer. J'étais adolescent à la fin, milieu des années 70, donc... La littérature, la musique, la vie, les potes, tout conduisait à cette ouverture d'élargir le champ de conscience, donc de tout essayer sexuellement, la drogue, les voyages, voilà, d'expérimenter. Ça faisait partie d'un mode de vie. Enfin, c'était pas exceptionnel. Ça paraît exceptionnel parce que on est dans une époque qui est devenue beaucoup plus pudibonde. Mais dans les faits, c'est l'histoire de toutes les jeunesses. Toutes les jeunesses ont envie de repousser les limites.
Et puis vous sortiez beaucoup ici. Hein.
Qui dit que j'ai cessé ?
Ah oui, vous sortez toujours beaucoup ?
Mais bien sûr, enfin.
Sur la piste.
On va revenir à votre album. Pourquoi ce titre, Guerre éclair, Blitz?
Parce que j'ai la sensation de ça. Et que j'ai enregistré cet album à Londres, où il y avait un mélange de, des attentats, du Brexit. Ça les a beaucoup fragilisés. Ils avaient l'impression d'être dans leur reel, protégés de tout. Et tout d'un coup, badaboum, c'est chez eux. Donc le spectre du Blitz, ça les hante toujours. Et donc c'est un mot qui, au-delà de l'énergie et de ce que ça fait ressentir comme émotion, moi j'aime ce mot. Je trouvais que c'était le mot qui allait bien avec cet album. Parce qu'il y a la sensation d'un danger imminent, mais quand même un peu diffus, parce que les news, c'est un peu du show, quoi. On se rend pas compte que c'est là. Moi, peut-être que ça appuie sur des choses parce que je l'ai ressenti en étant enfant, et que ça reconvoque des sensations.
Quelles sensations, par exemple? La peur
Ça peut être la peur, ça peut être la sensation d'insécurité. Tout ce qu'on ressent quand on est dans un moment comme ça. Et la guerre d'Algérie, c'était très très difficile. C'était un déchirement, ça a été affreux des deux côtés. C'était horrible pour les deux parties. C'est un divorce, véritablement.
C'est un moment fort où se réveille l'eau qui dort. Un moment clair où je me confonds à ta chair. C'est le feu, la soie. C'est le vent qui court sous la peau. Et c'est à prendre avec les doigts qui me rend tout chose. C'est comme un mal en moi qui m'effraie, qui me tord. Serre mon corps et fais-moi perdre pied dans ces eaux troubles. Fais-moi. Me garder en toi, le souffle court, figé la pose, les yeux noyés comme deux mutants sous hypnose.
David Bowie, Brian Wilson, Lou Reed, les Velvet Underground, toute la Motown, quand même. Nile Rodgers, Debbie Harry. Enfin, vous avez quand même des références au niveau anglo-saxon. Vous avez aussi des références littéraires, la peinture. En plus, vous habitez à Londres. Qu'est-ce qui vous lie à cette espèce de philosophie anglo-saxonne ou peut-être culture, tout simplement?
Je suis tombé amoureux de l'Angleterre très jeune. Hein. Je suis parti travailler à l'âge de 14 ans pendant 2 mois, la première fois. J'avais menti sur mon âge. Et donc, j'ai reçu une réponse. à Manchester, je suis allé travailler là-bas, et c'était l'éblouissement. Parce que je voulais savoir ce qu'ils disaient dans les chansons, des albums, dans les albums que j'écoutais, je voulais savoir ce qu'ils racontaient. Et donc je suis parti et j'ai découvert un monde. Forcément, j'étais encore un bébé, donc j'ai découvert la liberté, j'ai découvert tout ce qu'on peut découvrir quand on est un jeune homme, et je devais plaire pas mal à cette époque-là, donc j'étais assez sollicité, donc voilà.
D'ailleurs, vous avez fait une licence en anglais ?
Je ne l'ai pas fini. J'étais trop occupé à faire la fête.
Même pas faire de la musique, c'est faire la fête.
Ben oui, c'était une activité qui me prenait plus de temps. Je trouvais beaucoup plus sérieuse que de faire des études.
Vous parlez d'Ibiza. Vous y habitez de temps à autre ?
Non, j'y habite plus. J'y n'y vais plus.
Pourquoi ?
Parce que, d'abord parce que j'ai eu une rupture là-bas. J'ai une très longue histoire, grande passion. Et puis, Ibiza me rappelle des choses qui me rendent triste. Voilà. Et puis, je trouve que ça a changé. Pour moi, c'était une île vraiment spirituelle, avec une dimension. Je trouve que c'est devenu vraiment le business de la fête, de la mauvaise fête, de la mauvaise musique, du mauvais cul. Et voilà, j'aime pas.
Okay. Très bien, c'est clair, au moins que ça. On va parler de Weekend à Rome, qui est une chanson qui est la toute première, toute légère.
Elle correspond à un moment de mon existence. À l'époque, quand j'ai fait cet album-là, on était en plein dans les néo-yéyés. Donc il y avait en plus toute cette vague française qui avait émergé. Taxi Girl, Lélie et Jacquenot. Il y avait un truc très néo-yéyé. Elle est néo-yéyé, cette chanson. Un peu électropop, comme ça. C'est une bulle de légèreté. Et c'est pour ça qu'elle dure et qu'elle me symbolise autant encore aujourd'hui. C'est parce que le texte est léger, la musique est légère, et puis la pochette, c'est une image de Pierre et Gilles où je suis en petit marin d'eau douce avec un perruquet sur l'épaule. Donc voilà, c'est une image qui séduit, et qui est séduisante, et je vois pourquoi c'est séduisant. Maintenant, déjà, à l'époque, c'était pas moi à 100%, c'est clair. Elle est restée dans l'inconscient collectif comme une chanson qui fait plaisir. C'est un luxe d'avoir des chansons, d'avoir des tubes déjà. Moi, j'ai la chance d'en avoir plein. Mais c'est un luxe d'avoir des chansons qui provoquent autant de choses émotionnelles chez les gens.
Faire donner la peine.
personne.
Il y a eu un moment où toutes mes premières chansons commençaient à me taper sur les nerfs parce que j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, j'avais d'autres ambitions, j'avais envie de grandir, de m'améliorer, de faire des choses qui étaient un peu plus moi, un peu plus homme. J'avais envie d'avoir des cheveux blancs, enfin des rides, enfin grandir quoi. Alors que j'avais l'impression qu'on essayait de me garder dans cette espèce de truc du jeune homme éternel. C'est fatigant quoi.
En même temps, si on lit vos paroles, on voit quand même assez vite, et même dans vos premiers disques, il y a quand même des assises. Hein. Je veux dire, moi, je pense ne serait-ce que, oui, que le titre Voyage immobile, qui était aussi un tube, ouais, c'est pas quelque chose de très lisse, c'est très.
C'est le fantasme de cette image de Pierre et Gilles, qui est merveilleuse, qui est forte, très forte. Puis Pop Satori, l'hédonisme, les boîtes de nuit, la fête. Oublions que nous allons mourir et défonçons-nous la tête le plus que possible. Donc c'est les images qui restent, parce que c'est les images, c'est le moment où je suis apparu. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, pour les gens, on reste l'image de la personne qui apparaît, quand on apparaît. Mais c'est une jolie image, hein, celle-là. Sauf que il faut qu'elle se métamorphose petit à petit.
Qu'elle évolue peut-être.
Voilà. Ouais. Donc, et puis ces chansons-là, je trouvais qu'elles prenaient trop d'espace par rapport à des albums que je trouvais plus intéressants, des chansons que je trouvais plus fortes et qu'on me réclamait toujours des choses de quand j'avais 20 ans. Donc voilà, j'ai pris en grippe à un moment donné, mais ça y est, c'est fini. Je les aime à nouveau.
Est-ce que vous avez des regrets ? Ça sera ma dernière question.
Non, vraiment pas. Aucun. J'aurais pas pu. L'histoire aurait pas pu être différente, en fait. Et on a des regrets quand on a la sensation d'avoir raté quelque chose, ce qui n'est pas mon cas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Jouer au calife,
if trop.